Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
10h01 minute exactement sous le soleil de Québec. Comment ça va? Comment ça va? Hey, j'espère que ça va bien. Sinon, ben, on va essayer de vous remonter le moral pendant une heure minimum. C'est l'heure CV. Je m'appelle Pascal. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mon nom, Pascal CV. On est une heure ensemble de 10 à 11. Et ensuite, ben, la programmation aussi continue avec Marceau Midi, Gravel dans le retour. Chose dite, salutations faites. Je veux prendre les présences. Qui est là? 418-971-1021. Déjà plusieurs textos qui sont entrés. Également, les gens branchés sur Twitch. Des caméras en studio. Tu sais, quand on fait de la radio, c'est pas quelque chose qui, au départ, on adhère rapidement. T'sais, on se dit, on aime ça arriver avec un drôle de look. On aime ça pas penser à ce dont on a l'air. On aime ça pas se concentrer là-dessus. Puis après ça, ben, on se concentre toujours pas là-dessus, mais on découvre les merveilles de Twitch. Soit vous parlez en plus que direct. Plus que direct, oui, sur cette belle plateforme qui était auparavant pas mal consacrée à ceux qui game, mais qui est maintenant rendue très utilisée par les gens des communications. Ça veut dire qu'on a des caméras en studio, on peut se parler en temps réel, mais vous parlez aussi aux autres qui écoutent l'émission. Donc ça, c'est twitch.tv et vous tapez dans l'onglet de recherche du site Internet BLVD/FM et pop, vous êtes maintenant en studio avec moi et tous les autres auditeurs qui ont décidé de se joindre à Twitch. Dans cette belle journée du mercredi 1er mai, déjà mai, on dirait qu'on était en février hier. Êtes-vous dans le même constat que moi? Même constat que moi. J'avais les mois en tête. Même constat que moi. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette partie de votre vie où ça va tellement vite, puis on se réveille un matin, puis on est le 1er mai. Sous le soleil, heureusement. Ben, plusieurs personnes ont déjà signifié leur présence. Frank, entre autres, qui dit « Je suis sur la livraison. » Il est sur la livraison en direct du Casino de Charlevoix. Oh, quelle belle journée pour faire cette route-là aujourd'hui. Salut Pascal, passe un bon show à vous aussi. Marie, ce qui dit « Présente. » Lisette qui est là aussi. Denis, hey, merci d'écrire au 418-971-1021. Je vais tous vous nommer et vous répondre dans quelques instants. Le proverbe du jour, parce que avant que vous me disiez que je ne l'ai pas fait, je l'ai. Il est devant moi. Rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart des gens ne t'aiment que pour ce que tu peux faire pour eux. Je n'étais pas en accord nécessairement avec ce proverbe-là. J'ai peut-être choisi de ne pas être en accord pour ne pas croire à ça. Je n'ai pas envie de croire à ça, qu'on n'est pas aimé pour nécessairement ce qu'on est, mais ce qu'on apporte aux autres, ce qu'on peut faire pour les autres. J'avais envie de l'amener ce matin dans la discussion d'intro de l'émission pour savoir ce que vous en pensez. Là, je sais, des gens blessés ou des gens qui ont connu des mauvaises personnes sur leur route pourraient adhérer à ce proverbe-là. Cependant, admettons qu'on creuse, est-ce que vous, si on revire ça vers vous, est-ce que vous, vous aimez... Ça se peut, là, on n'est pas dans le jugement, ça se peut que vous vous rendiez compte que oui, ça fait beaucoup de sens dans votre façon d'analyser les choses, ce proverbe-là, mais est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils vous apportent? Je comprends, il y a une partie humaine, il y a l'humain qui est attiré envers ce qui est positif pour lui-même, finalement. Là. Au quotidien, si une personne ne t'apporte rien, même pas un sourire, ça se peut que ce ne soit pas la personne que tu vas aimer le plus au monde, là, si elle te laisse neutre. Mais est-ce qu'on est un peu tous des profiteurs des relations autour de nous? Est-ce qu'on la pousse trop à l'extrême, cette réflexion-là, en ce moment? Est-ce qu'elle est que de surface, je la trouvais négative. Peut-être qu'en analysant, elle devient plus psychologique que d'autres choses. Peut-être de façon inconsciente, on choisit les gens dans notre vie pour effectivement ce qu'ils nous apportent, les points en commun, le fait de nous faire grandir. Les plus belles relations, en fait, sont celles où on est accepté pour ce qu'on est et on est aimé pour ce qu'on est, mais qu'en plus, on est poussé vers le haut, hein, des gens qui croient en nous, des gens qui nous encouragent, des gens qui décident d'être là malgré les hauts, malgré les bas, de construire quelque chose, de voir le passé hein, qu'on a eu, au lieu de juger tous les comportements de façon unique et en silo, de prendre un pas de recul puis regarder, ouais, OK, bon. Peut-être que Nicolas, dans ma vie, là, il a réagi d'une manière aujourd'hui qui est explosive, qui est dérangeante, mais comment est-ce que je peux l'expliquer si je sais que Nicolas a un bon cœur? Bien, peut-être que Nicolas, il a toujours vu des gens se chicaner dans son foyer familial. Fait que pour lui, c'est moins intense que pour moi. Donc, quand il lève le ton, c'est pas quelque chose qui est agressant pour lui, c'est ce qu'il a connu. On peut-tu en discuter? Parce que moi, je me sens pas bien là-dedans. client, ou encore peut-être que Nicolas se protège à ce moment-là, puis sa peine sort en colère? Est-ce que c'est toutes des analyses qu'on peut faire au lieu de faire dire « Voyons, Nicolas, c'est un hystérique! » Mais c'est ça, quand quelqu'un a un bon fond, un bon cœur, on le sent pur, il y a peut-être des explications, des conversations à avoir pour justement apaiser le tout, puis continuer de créer et de rendre plus fortes ces relations-là. Donc, revenons au proverbe. « Rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart des gens ne t'aiment que pour ce que tu peux faire pour eux. » Fais penser à ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. C'est un peu dans le même sens. Vous en pensez quoi? Bon, j'ai manqué le proverbe. Je le répète une dernière fois. « Rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart des gens ne t'aiment que ce que pour ce que tu peux faire pour eux. » Voilà. Écrivez au 88-971-1021 ou sur Twitch si vous trouvez ça intense ou si vous êtes en accord. On s'en va se couler un café sur une des chansons que j'ai ajoutées récemment dans mes listes de lecture. Corias nous a poussé la chanson du printemps qui s'appelle Printemps. Et je vous le dis, ça vaut la peine. Si votre café n'est pas coulé, peut-être allez l'écouter avec Corias parce que honnêtement, elle est excellente, cette chanson-là. On va être plusieurs à rouler dans la capitale nationale, la fenêtre baissée, dans les prochains instants, avec Corias dans le piton et où? Dans les prochaines semaines. RCV avec Pascal CV. Alors, ça passe ou ça casse, cette nouvelle chanson de Corias. C'est très Corias, hein? On s'entend, là. On va pas demander à M. Cabrel de faire autre chose que son style. Mais il y a quelque chose dans le son. J'adorais ça. Si t'aimes pas le franglais, ça peut que ça soit pas pour toi. Mais printemps, ça se passe bien. Ça me rappelle l'une de mes amies, puis on jasait de ça dans Marceau le midi hier, qui me disait qu'elle voulait pas rencontrer quelqu'un de qui elle allait tomber en amour l'été, parce que le printemps fait revivre... On est d'accord avec ça aussi. Je te salue, mon ami qui commence par V. Ça fait bien rire, tout ça. Vous avez réagi au proverbe de la journée. Je le répète pour ceux qui se sont joints à nous dans les dernières minutes. En fait, rares sont les personnes qui t'aiment pour ce que tu es. La plupart des gens ne t'aiment que pour ce que tu peux faire pour eux. Entre autres, on se dit, allô, moi, je trouve que c'est un proverbe qui me parle énormément. J'ai l'impression d'avoir été choisie pour mon argent toute ma vie. Oh, ouais, ça peut jouer, mais je pense qu'on peut flairer aussi les gens qui sont là pour les bonnes raisons. J'en connais des gens qui sont en affaires puis qui parlent pas de ce qu'ils possèdent avant un bon bout, surtout en dette, pour pas justement attirer les mauvaises personnes. Puis s'habiller en conséquence aussi dans les magasins pour aller magasiner leur téléviseur et autres, soit presque en clochard, là, disons-le comme ça, pour pas qu'on leur vende des choses qu'ils n'ont pas besoin. Vous avez été plusieurs à le commenter. Il y a Maryse aussi qui dit « La pensée du jour est toujours là pour nous faire réfléchir. L'humain, à la base, pense et agit pour ses besoins. Certains individus réussissent à aller au-delà de ça et pensent aux autres et désirent les aider à améliorer leur situation, leur vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui agissent de cette façon inconsciemment. Ça prend une réflexion sur soi pour agir autrement et s'assurer qu'on ne fait pas partie de ces gens-là qui profitent sans le vouloir et sans le savoir. » Quelqu'un qui dit « Je pense que c'est plutôt vrai. Qui peut m'aimer pour ce que je suis, qui me connaît suffisamment pour ça. Les autres m'approchent pour ce que je leur apporte et c'est bien correct. Ensuite, ça change. » Effectivement, peut-être qu'au début, les premières relations ou l'entrée en relation, c'est pour ce que l'autre nous apporte. Je ne sais pas, il y a tellement de... C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Quelqu'un qui dit, « À mon avis, c'est de plus en plus vrai. De génération en génération, nous sommes dans un temps où acheter et jeter est plus facile. » C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est la chose la plus difficile à constater. Que aussitôt que ça devient difficile. Puis ça, là, je vous dis, je vous confie quelque chose, c'était pas prévu, mais j'écoutais un podcast hier d'un couple qui a décidé de passer plus de temps ensemble. Puis on dit, on le fait de manière égocentrique, complètement égoïste. On fait ce podcast-là, si ça vous tente, vous l'écouterez, mais sinon, on le fait pour nous. Puis ils jouaient à des questions. Puis dans ces questions-là, c'était des questions quand même assez pointues, là. Donc, s'ils ne voulaient pas répondre, ils pouvaient prendre un shooter. C'était pas à 10h11 le matin, mais quand même. Et dans le couple en question, il y a une des personnes qui a été longtemps en couple, alors des années de couple, et l'autre qui n'a jamais franchi la barre des 2 ans. Et super vulnérable et authentique, la personne qui n'a pas franchi la barre des 2 ans, lit une question et c'est « Est-ce que tu nous vois encore ensemble dans 5 ans? » Et la pause est longue. Elle en dit beaucoup, puis ben, son partenaire est comme « Ben là, peux-tu répondre? Au pire, on va mettre une date tout de suite, parce qu'on dirait qu'en ce moment, c'est pas quelque chose qui t'intéresse dans 5 ans de nous imaginer ensemble. » Et de façon candide, la personne qui n'a jamais eu de relation dépassée le 2 ans dit « Ben, je le sais pas. » Parce que moi, j'ai jamais Je suis jamais revenue d'une passe plus difficile avec quelqu'un dans ma vie. Puis elle l'avouait de façon vraiment, vraiment authentique. Et je devrais dire... En tout cas, j'ai trouvé que c'est une belle confidence, même si ça paraît que peut-être il y a un peu moins d'expérience dans le couple à ce sujet-là. Mais la personne a dit... Moi, je n'ai jamais vécu ça. Donc, de revenir d'une passe où sexuellement on était moins actifs, ça a été difficile. De revenir d'une passe où l'intimité en général a commencé à diminuer, puis on n'a pas pris les solutions, on n'a pas été conscient de ça. Bon, on s'est plutôt dit, ben, on n'a plus vraiment d'intimité, on n'est plus intime l'un face à l'autre et pas juste au niveau sexuel. Donc, on décroche. Puis, son partenaire devant dit, ben, moi, j'ai connu que ça. J'ai été plus que 6 ans en relation et on est passé à travers plusieurs gouffre et qu'on a rempli avec notre pelle, tu sais, pour finalement colmater les fuites, puis continuer ensemble et se choisir. Et la personne qui n'a jamais franchi le cap des 2 ans a dit, bien, j'ai hâte, moi. J'ai hâte, puis j'espère vraiment qu'on va le faire ensemble parce que j'ai l'impression que ça va être encore plus solide après. Puis là, il parle d'infidélité dans tout ça, pas qu'il souhaite être infidèle l'un face à l'autre, mais dans le contexte de couple, dans la vie, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Un bris de confiance, une infidélité, juste des fois la fatigue, juste des fois l'éloignement, parce qu'au quotidien, ça va tellement vite, puis on oublie de se ramener en tant que couple, de se dater. Puis, bon, on donne des fois, on donne un petit peu des conseils comme quoi il faut le mettre à l'horaire quasiment une fois par semaine. Puis, si on ne le met pas à l'horaire, bien, on oublie. Puis, des fois, bien, quand c'est pas cédulé, on se dit, bien, il me semble qu'on vient de se dater, on n'a pas besoin de le faire, mais ça change beaucoup la perspective et la fondation d'un couple, surtout avec des enfants. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, fascinant même, cette façon très honnête de se confier puis dire, hey, moi, j'ai hâte de le faire, mais ça revient à ce qu'on dit. Est-ce que la génération actuelle et de génération en génération, le fait d'affronter des défis à deux, le fait de passer une perception négative de l'autre, faire avec les défauts de l'autre. T'sais, on dit souvent, en relation, il y a 3 stades. Il y a le stade de la passion au départ, il y a la différenciation, où finalement, on se rend compte que la personne, ben, n'est pas parfaite, même si pendant des semaines, on a cru que oui. Elle n'est pas parfaite, elle a ses défauts. Des défauts, des fois, un petit peu plus difficiles que d'autres, mais... Pour en venir à la 3e phase, il y a l'acceptation. On accepte ces défauts-là qui vont nous taper sur le runner, ces défauts-là qui ne seront pas toujours faciles, mais on accepte ça et on ne veut pas nécessairement changer la personne, mais on veut en discuter avec la personne. On veut voir où est-ce qu'on peut trouver des compromis puis qu'est-ce qu'on accepte comme défaut. Il y en a certains qu'on n'acceptera jamais et d'autres qu'on va être capable de faire avec. Il faut juste trouver la personne qui... C'est ça, c'est bon. Il faut juste trouver... Parce que je l'ai entendu récemment là, d'une psychologue. Il faut juste trouver la personne de qui les défauts ne sont pas quelque chose qui vont nous rebuter au point de nous séparer. Fait qu'il faut choisir la personne pour ses défauts, finalement, dans la vie. Je trouvais ça comique. Je trouvais que c'était un beau parallèle. Alors voilà pour notre petite portion humaine dans l'émission. Ouais, leur CV, c'est ça. Je pourrais faire un segment, Sainte-Nitouche, avec un petit bruit là, du podcast. Je vais parler à Tommy là-dessus. Dans quelques instants, on va parler de l'itinérance jeunesse. Donc, il y en a beaucoup, des jeunes, parlant de génération, là, il y en a beaucoup des jeunes qui se retrouvent à la rue. On voit un phénomène qui est grandissant, puis disons-le, c'est vraiment pas drôle comme phénomène, et il y a une crise très importante de l'itinérance jeunesse au Québec. Ça atteint un seuil critique. C'est au moins 2000 jeunes qui se trouvent en situation d'itinérance chaque nuit. 50 % ont été suivis par la Direction de la protection de la jeunesse dans le passé. C'est inacceptable, percutant et très difficile à lire des constats comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes sont de plus en plus dans la rue? Est-ce que c'est en raison justement d'un passé trouble avec la jeunesse, le foyer dans lequel on a vécu? C'est une mauvaise gestion financière? C'est tout ça? Ça dépend de tout le monde. On va aller en parler parce qu'ici à Québec, ben il y a un gros congrès en ce moment pour en parler. Ça se passe aujourd'hui. Puis, on ne veut pas juste prévenir, on veut passer à l'action. On est rendu dans l'urgence et il y en a des jeunes qui, chaque soir, pendant que vous prenez votre grosse douillette, vous enfouissez dedans, vous collez sur votre blonde ou votre chum ou encore sur votre coton watté pour simuler que vous êtes avec quelqu'un. Je pense à un auditeur qui m'a confié ça récemment. Ben il y en a qui dorment dans la rue. Mais des jeunes, pour qui ils vont apprendre la vie comme ça? Fascinant, inquiétant. On en parle dans un instant dans leur CV, restez là.
Vous voulez vendre votre...
Avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard. 102.1.
Ben oui, merci pour la confiance. Merci d'être là. On se confie beaucoup, justement, dans cette émission-là. Puis, ben, vous faites partie intégrante de leur CV. Intégrante, ça c'est certain. Vous êtes mes collègues et mes co-animateurs. Merci pour ça. Je peux vous dire qu'à l'extérieur, c'est 9 degrés, du gros soleil. Et c'est ce qu'on aura tout au long de la journée. Avec 14 comme maximum, est-ce qu'on réussira à l'atteindre? Là est la question. Et pour ce soir et cette nuit, c'est 5 degrés maximum. La pluie intermittente qui devrait commencer ou de la bruine dans certains secteurs. Parce que c'est le scénario de demain, jeudi. Un 9 degrés comme maximum et de la pluie intermittente. Vendredi, retour du soleil. Il va falloir en profiter parce que le week-end s'annonce somme toute gris, mais ça peut encore changer. Cependant, les températures sont en montée. Là. On aura du 13-16 degrés même samedi. Très agréable et de plus en plus confortable. Il y en a par contre qui ne sont pas confortables. Il y en a qui ont tout un défi de vie pour plusieurs raisons. Et on met en lumière récemment quelque chose de très important, c'est l'itinérance jeunesse. Globalement, on sait qu'au Québec, la situation de l'itinérance a explosé dans les dernières années. Je pense que c'est pas mal l'année, ou 2023-2024, là, depuis que je fais des médias, depuis 10 ans facilement, je pense que c'est la période où on en a le plus parlé et de façon critique. Là, il y a un milieu de l'itinérance complet qui se mobilise au Québec et on demande aussi l'aide de Québec, plus d'aide pour cette crise-là. Et on cible particulièrement l'itinérance jeunesse au Québec. Ça atteint un seuil qui est critique. Je vous en parlais là, avant, le bloc publicitaire. Au moins 2000 jeunes répertoriés qui se retrouvent en situation d'itinérance chaque nuit. 50% d'entre eux, hey, c'est énorme, c'est la moitié d'entre eux. Il y a quelque chose là, il y a un filon important qui ont été suivis par la Direction de la protection de la jeunesse dans le passé. Est-ce que c'est parce qu'à 18 ans, on leur dit, tu ramasses tes affaires et tu prends tes clics et tes claques et c'est terminé, on te laisse à toi-même, puis justement, ils n'ont peut-être pas tout le bagage positif pour essayer de s'en sortir, mais c'est une situation, on le sait, c'est intenable, c'est aussi inacceptable. Quand on voit ça, on a envie d'avoir des jeunes qui ne sont pas vulnérables, qui ont une possibilité de se construire au même titre que d'autres et donc de construire une société et donc de ne pas être toujours dans les filets sociaux, de pouvoir s'épanouir, contribuer à la société, se sentir valorisé, se sentir aussi comme un citoyen en bonne et due forme, hein? Pas comme la loque dans la rue qu'on a de la misère à vivre avec, même pas de sourire au quotidien. C'est particulier, c'est criant, c'est difficile. Et pour en parler, on s'en va rejoindre au bout du fil une dame qui s'appelle Cécile Arbeau. Elle est directrice générale de Dans la rue, cofondatrice de la coalition Jeune Plus. Bonjour, Madame Arbeau.
Bonjour.
C'est important aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on en parle en ce 1er mai des jeunes qui vivent dans la rue?
Bien, on s'en parle parce que c'est une journée de solidarité. On s'en parle parce que la coalition Jeune Plus a décidé de rassembler des acteurs, des actrices de l'ensemble du Québec et des jeunes pour en parler de façon un petit peu plus approfondie, pour s'asseoir ensemble et trouver des solutions, des pistes d'action et surtout une solidarité pour aider à ce qu'il y ait plus de prévention. L'idée, c'est que, effectivement, c'est très difficile, les situations d'itinérance, vous l'avez bien dit, et l'idéal, ça serait qu'elles ne soient pas trop nombreuses, qu'elles ne soient pas trop fréquentes et qu'elles ne soient pas trop profondes aussi. Donc, agir en prévention, c'est ce qui nous semble la voie la plus juste, la plus équitable et qui va apporter une solution à de nombreux jeunes.
Mais agir en prévention, ça consiste en quoi? Vous, sur le terrain, ce que vous voyez dans les besoins de prévention, c'est quoi?
Il y en a énormément parce qu'en fait, l'itinérance jeunesse, c'est très vaste et c'est surtout très complexe et souvent, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors, on peut parler de prévention, je dirais, un peu en aval, des choses qui vont aider à la transition, des choses qui vont aider à la sortie durable de l'itinérance pour que les jeunes en situation d'itinérance ne deviennent pas des adultes en situation d'itinérance. Donc là, on parle simplement de logement, d'accompagnement, mais c'est aussi d'avoir un niveau d'éducation suffisant, en tout cas souhaité, tel que souhaité par le jeune, ou un accès à l'emploi, etc., etc. Mais on peut aussi parler de prévention un peu plus en amont, que ce soit au moment où la personne arrive en situation d'itinérance ou même encore avant, quand la personne est à risque d'itinérance, ou même encore mieux avant, dans prévention en amont, que les systèmes, les façons d'aborder les jeunes qui vivent des premières difficultés soient différentes et favorisent la prévention, et même en amont que des facteurs qui vont causer de l'itinérance, tels que de la discrimination ou du non-accès à des soins de santé mentale, etc., puissent être résolus en amont.
Mais ça semble, tu sais, c'est bon, facile à nommer, c'est facile à identifier, disons-le comme ça, parce qu'on peut avoir des témoignages et autres, mais tellement difficile à appliquer. Ça prend de l'argent, ça prend des ressources, ça prend le fait de pouvoir se trouver ces jeunes-là, de les convaincre que ce n'est pas la solution et que ce n'est pas le système viable pour justement prendre part à la société et pour eux-mêmes, soit de vivre dans la rue, de choisir des fois l'itinérance. Il y en a qui vont le choisir. Mais quand on regarde un peu tout ce qui sort dans les médias, les statistiques et autres, on parle qu'il y a au moins 2000 jeunes qui se trouvent en situation d'itinérance chaque nuit. Et on précise que 50 % d'entre eux qui ont été suivis par la Direction de la protection de la jeunesse dans le passé. Moi, je me rappelle à la sortie de la commission Laurent, en 2021, on annonçait qu'on souhaitait aider ces jeunes-là qui quittaient la Direction de la protection de la jeunesse jusqu'à leurs 25 ans. C'était une recommandation de Régine Laurent. Certaines choses ont été discutées suite à ces recommandations-là, mais de ce qu'on a entendu majoritairement, c'est lorsque les jeunes avaient 18 ans et qu'ils étaient dans un foyer d'accueil, on leur disait « vous faites votre sac, ramassez vos clics, vos claques, ça se termine maintenant, vous allez devoir vivre par vous-même ». Mais c'est pas tout le monde qui avait les ressources, autant financières, psychologiques, de l'entourage pour le faire. Il y avait un manque de services destinés aux jeunes de la DPJ quand ils atteignaient l'âge de 18 ans. C'est encore le cas. Est-ce que ça, vous le remarquez, vous aussi?
Oui, absolument, absolument. Et il y a des choses qui sont faites pour aider à la transition, mais c'est pas suffisant. C'est pas assez souple, en l'occurrence. Souvent, il faut que le jeune fasse un choix assez jeune pour avoir des programmes de transition, si je peux dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais à 16 ans, par exemple, ou à 17 ans, il faut qu'il fasse un choix, dire « oh oui, je veux prolonger », mais si ensuite il y a quelque chose qui se passe et que soit il abandonne, soit que ça ne se passe pas très bien et qu'il soit retiré du programme, il n'y a pas beaucoup de possibilités de retour. Le Québec est pas mal en retard par rapport à d'autres provinces sur la transition. Mais quand on parle prévention, là on parle individuellement aussi, mais on veut aussi remonter un peu plus en amont et se dire qu'est-ce qui fait pendant le placement, en fait, qui va construire les forces du jeune, sa capacité de résilience, sa capacité d'intégration dans la société. Quand on a des jeunes qui sortent et qui n'ont pas de niveau scolaire, qui sont très peu scolarisés, qui n'ont pas d'expérience d'emploi, il y a beaucoup d'éléments avant la transition aussi. Le fait qu'ils aient vécu de nombreux placements, donc des déplacements, des changements de système scolaire. Là, on a parlé, par exemple... des jeunes, c'est ça, qui n'ont pas assez de... qui ne sont pas encore suffisamment avancés dans leur vie. Puis, ce sont des jeunes qui arrivent souvent à la protection de la jeunesse, pas tout le temps, mais souvent avec des situations familiales difficiles. Donc, le retour dans la famille n'est pas évident. Ce sont des jeunes qui ont moins de ressources autour d'eux dans leur environnement. Donc, il faut vraiment miser sur qu'ils bâtissent des forces eux-mêmes. Et c'est vrai, c'est un peu... quand on a des enfants du même âge, on voit très bien que c'est difficile, en fait, de se dire qu'un jeune à 18 ans peut être autonome. C'est impossible.
Ouais, mais j'entends ce que vous dites. J'entends que peut-être que le jeune, dans la suite, après ses 18 ans, prendrait des décisions d'aller chercher de l'aide s'il avait été mieux encadré auparavant, qu'il n'avait pas été changé de foyer constamment, qu'il avait eu les ressources et les filets sociaux pour être accompagné. Je l'entends, cette différence-là que vous faites. Donc oui, il y a le programme après 18 ans, mais il y a aussi tout ce qui est avant pour former le jeune à prendre des situations, à faire des choix éclairés pour la suite des choses. À Québec, là, même dans la capitale nationale, c'est quoi la situation de l'itinérance en jeunesse?
Mais moi, je suis désolée, je suis à Montréal, donc je ne connais pas vraiment encore la situation à Québec. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait de réflexion, et je pense que c'est comme Montréal, c'est une ville, donc c'est un endroit où on accueille et on attire, en fait, un certain nombre de jeunes qui viennent chercher des services. Donc, il y a un gros travail qui est fait par un regroupant, le réseau d'aide aux itinérantes et itinérants de Québec, qui a un groupe qui travaille sur la jeunesse pour identifier justement des solutions plus spécifiques à Québec.
Parce que c'est plus particulier qu'une grande ville que Montréal et qu'un réseau comme la région. C'est ça que vous voulez dire. OK.
Disons, ville ou chaque région a ses défis particuliers. Il y a des endroits où il y a beaucoup de ressources, des endroits où il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y a des jeunes qui migrent, en fait, d'une région à une autre pour recevoir des ressources et qui se retrouvent eux-mêmes sans réseau de soutien. Donc, c'est tout un peu cette complexité qu'on peut avoir. C'est pour ça que au niveau de la coalition Jeunes Plus, ce qu'on essaie c'est de rallier. Alors, en ce moment, on a des participants qui viennent de Sherbrooke, de l'Abitibi, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour justement réfléchir ensemble à comment on peut s'outiller, s'inspirer mutuellement pour essayer de trouver des solutions qui soient favorables pour tous les jeunes.
Merci beaucoup, Cécile Arbeau. Vous êtes cofondatrice de la Coalition Jeunes Plus et directrice générale de l'organisme Dans la rue. Merci pour ces minutes-là à nous parler de tout ce qui se passe en itinérance jeunesse qui, malheureusement, prend de l'expansion partout au Québec.
Merci à vous de m'avoir reçue. Merci.
C'est intéressant de voir des gens dans l'action, justement, qui tentent d'avoir des tribunes pour en parler. Et c'est un peu la mission que se donne, en fait, Jeunes Plus. On veut que ce soit un contexte bien inscrit de donner la parole à ces jeunes-là, à ces gens-là qui vivent dans la rue et aux gens aussi, les acteurs issus des secteurs communautaires, institutionnels et politiques, pour parler et sensibiliser, rallier les gens, mobiliser aussi autour de cette mission-là qui est assez commune, qui est pour tous et chacun. Pensez-y, des jeunes qu'on échappe comme ça, bien, on va avoir recours à des services de santé plus nichés, particuliers, seront dans les rues, des fois c'est un enjeu de sécurité, auront besoin de services en santé mentale parfois. Il peut avoir des déboires, il peut avoir des problématiques. Ils ne contribuent pas à l'économie. C'est pas des gens qui vont aller travailler, justement, qui vont être encore plus isolés et qui vont se sentir obligés d'y rester parce que ce sera leur quotidien. Puis à un moment donné, ils sont déshumanisés parce que juste le fait qu'on ne leur sourit pas par peur ou par autre raison, qu'on doit des fois réfléchir là-dessus, fait en sorte qu'ils sentent moins que rien, ils sentent finalement invisibles ou inadéquats en société, donc ils n'iront pas plus loin dans leur recherche à s'en sortir. Pendant l'entrevue, il y a Éric Boulay de l'Aubrivière qui écrivait, qui dit « Salut Pascal, et en plus je te rappelle que le tiers de la clientèle qui frappe à notre porte à l'Aubrivière a entre 18 et 30 ans. Merci pour la statistique. » Éric, toujours bien à l'écoute, c'est un bonheur de te savoir là, puis c'est intéressant que tu nous l'apportes, cette statistique-là, suite à l'entrevue. Je ne sais pas si vous connaissez des jeunes dans la rue, mais si jamais c'est le cas, écrivez-moi au 88-971-102, j'aimerais ça discuter avec vous, puis voir justement comment ça s'est passé dans leur vie pour que ce soit un choix conscient ou inconscient maintenant de parcourir la capitale nationale avec son petit baluchon, si baluchon il y a. C'est un enjeu important, puis ça prend de l'expansion. Moi, ça me sidère de voir ça. Je ne sais pas où on l'échappait concrètement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à voir avec les situations un petit peu plus, parfois tragiques, là, dans les foyers, hein, de l'enfance. Il y a quelque chose de particulier de voir l'explosion des cas, de voir l'explosion des jeunes qui ne sont pas encadrés. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est juste les signalements qui sont en hausse? Mais en même temps, si l'itinérance jeunesse est en hausse, ce n'était pas le cas auparavant, il y a beaucoup de questions non répondues. Puis ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas donner des réponses, c'est que ce n'est pas toujours facile d'aller en faire une statistique générale. Mais peut-être qu'il y aurait des études à faire là-dessus. Puis au-delà des études, bien, des interventions et de l'action. Parce qu'on peut bien parler de chiffres, ça nous donne une façon de voir là, justement comment ça se passe dans la ville de Québec et partout au Québec. Mais ça ne donne pas d'action concrète malgré tout. Gasoline à leur CV, l'amour véritable est aux rebelles, c'est ce qu'on s'offre.
Pascal CV.
Énorme journée d'actualité ces temps-ci. Énormes annonces aussi. Bon, en cette journée des travailleurs où le salaire minimum à 15,75 est en vigueur à partir d'aujourd'hui. Félicitations et bravo à tous ceux qui ont atteint le 15,75, disons-le comme ça, pour le salaire minimum. Je sais qu'avec ces temps difficiles financièrement, ça peut aider certaines personnes, mais c'est la journée des travailleurs. Au-delà de ça, il y a énormément, énormément de nouvelles. Beaucoup très, très difficiles. Donc, j'ai décidé de finir finir mon bulletin de nouvelles aujourd'hui avec deux plus positives, parce qu'il y en a à travers tout ça qui sont positives. Mais malgré tout, faut qu'on fasse un bon tour de tout ce qui se passe. Honnêtement, c'est très, très, très plein. Je pourrais commencer avec cette nouvelle qui fait le tour, là. C'est une journée autre que la journée des travailleurs qui entre dans le calendrier politique parce que la directive du ministre Drainville est en vigueur aussi aujourd'hui. Les toilettes mixtes qui sont dorénavant interdites dans les écoles publiques. Bon, il y avait passé de la parole aux actes, il y a un bon bout quand même en voulant que les toilettes et vestiaires mixtes soient interdits dans les écoles publiques. C'était une directive ministérielle qui allait entrer en vigueur aujourd'hui et c'est fait. Donc, pas de toilettes et de vestiaires mixtes, sans distinction, garçons, filles, qui peuvent être conçus dans des projets de construction ou de rénovation de bâtiments scolaires. Et ça, c'est bien inscrit. C'est vraiment quelque chose de gouvernemental et de gérer en conséquence. Est-ce que vous trouvez qu'on a perdu du temps dans ça? Peut-être. À vous de faire aller vos claviers pour commenter toutes les nouvelles. Vous le savez, j'aime ça et je lis tout ce que vous avez à dire. Mais concernant les projets qui sont en cours, des modifications seront exigées aussi, mais uniquement à ceux dont l'avancement des plans et devis est inférieur à 30 %. Donc, c'est ce qu'on a précisé du côté du ministre. On veut éviter des coûts, des délais supplémentaires liés à cette exigence. Merci. Oui, dans tout ça, c'est très important parce que je ne pense pas que c'était l'enjeu premier. À moins que vous disiez quelque chose de différent et que vous me convainquiez du contraire, je trouve qu'on avait bien d'autres chats à fouetter, comme on dit. Ça, c'est important d'en parler. Ça a des impacts partout, en fait. Même à New York, c'est vraiment difficile. Mais les campements là, qui sont pro-palestiniens à Montréal, dans le coin de McGill, il y aura une décision sur l'injonction attendue aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est important? C'est qu'il y a une montée en tension. Puis si vous voyez ce qui se passe à New York, entre autres, c'est des affrontements, c'est beaucoup de violence. Il y a des images qui me rappellent le printemps érable, puis les carrés rouges, puis tout ça. Ça me rappelle des grosses manifestations où la tension monte, puis il y a des affrontements. On ne veut pas que ça se passe comme ça à Montréal et c'est peut-être pour ça qu'on est rendu à demander une injonction. Ça a été déposé hier par deux étudiants. Et là, on demande de façon provisoire à empêcher les militants pro-palestiniens de manifester à moins de 100 mètres des bâtiments universitaires de McGill. Ça pourrait provoquer indirectement le démantèlement du campement sur le campus. C'est pas une histoire de brimer la liberté de parole ou autre. C'est juste qu'avec les montées des tensions, on n'a pas envie de gérer ça, puis on n'a pas envie que ça escalade. Ça reste des positions, des opinions par rapport à un conflit extrêmement difficile à voir à travers le monde. Parce que maintenant, tout le monde essaie de dire un peu son mot politiquement, de s'ingérer là-dedans. Et ça reste, mis à part le regroupement terroriste du Hamas, là, je vais dire ça, deux lopins de terre. On va résumer de façon très, 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 très vulgarisée. Deux lopins de terre qui, à travers les années, ont des conflits religieux, qui continuent et qui prennent beaucoup trop d'ampleur, avec des répercussions violentes, militantistes, beaucoup plus de la tête gouvernementale que des peuples en particulier. Là où les peuples s'élèvent contre les autres, c'est quand ça devient émotif, puis il y a des proches, des maisons, des quartiers complètement détruits, des manquements aux besoins et aux ressources naturelles pour vivre, hein, les besoins primaires, et ça, c'est totalement normal. Mais si on enlève ça, ce qui est impossible à enlever en ce moment, dans les idéaux, la façon de voir les conflits, au tout départ, le peuple de Benjamin Netanyahou, entre autres, était contre cette politique-là et s'apprêtait à le tasser du pouvoir. Là où il y a eu une recrudescence là, de popularité, c'est quand il y a eu l'attaque. Là, ils se sont dit « il faut se défendre et ça sera notre homme ». Et ça a commencé à amener encore plus de tensions, à les faire exploser et dans tous les sens du terme. Et politiquement et de façon géopolitique, c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez les répercussions, même à Montréal, à New York et autres, mais à la fin, qui perd? C'est l'humain, c'est le citoyen, ce sont les peuples, pas nécessairement les gouvernements et autres. Ceux qui perdent réellement, qui sont les vraies victimes, c'est autant les Palestiniens que les Israéliens là-dedans. C'est absolument triste et déplorable, mais on ne peut rien changer en ce moment. Et surtout pas en ayant des affrontements de tensions violentes. Ici, au Canada, c'est la pire chose qui peut arriver. Il y a un conflit entre le clan de la Blood Family Mafia et les Hells Angels dans tout ce qui est stupéfiant un peu plus près de chez nous, vous le savez. Et ça donne du fil à retordre à tout ce qui est centre de détention à Québec et aux policiers aussi. Mais là, ils étaient surchargés. En plus, on fait plein d'arrestations. Le groupe malsain est super présent sur le terrain. on envoie des gens en prison et les agents correctionnels, ben, il en manque. Et ceux qui sont entre les murs des prisons doivent composer avec une hausse de violence et des livraisons par drone à l'intérieur des murs. Ça, c'était déjà le cas, mais c'est d'autant plus important maintenant, parce qu'il y a plein de gens entre les barreaux. Et actuellement, il y a une vingtaine de Hells Angels et une trentaine de membres du groupe Blood Family Mafia qui sont détenus entre les mêmes murs. Alors imaginez, on se courait après dans les villes de Québec. Maintenant, on est l'un face à l'autre ou presque entre les murs de la prison d'Orsainville. Donc oui, tension, dangerosité et violence accrue depuis février, parce qu'on a procédé à ces arrestations-là au mois de février, majoritairement, pour en continuer. Mais il y a une escalade des événements violents liés au crime organisé. À elle seule, l'opération Scandaleux, on l'a appelée comme ça, a permis l'arrestation d'au moins 11 membres du groupe de la Blood Family Mafia juste ici à Québec. Alors imaginez, là, on est en attente des procédures judiciaires pour la majorité des suspects qui ont été envoyés à Orsainville. Donc, surcharge de travail dans les établissements qui étaient déjà bondés. Et entre-temps, ben, ils ne deviennent pas amis. Hein? Ils deviennent encore plus ennemis. Puis, tu sais, la prison, des fois, c'est une école pour certains crimes supplémentaires ou encore régler des comptes. Puis c'est bien malheureux de le dire, mais c'est le cas. Et les livraisons par drone, qu'est-ce que ça comprend? De la drogue, des armes, des cellulaires. Là, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour pas qu'il y ait de contact entre les deux, des deux camps, mais pas toujours facile. Ils ont été séparés, complètement séparés dans différents secteurs de la prison d'Orsainville, mais ils savent, là, que leurs ennemis sont entre les murs. Donc, jour et nuit, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un bandit, un accusé qui décide de passer à travers la prison. Il se ferait intercepter, mais quand même, ça reste qu'il doit vouloir dire de quel bois il chauffe, là. Donc, c'est loin d'être facile à Orsainville en ce moment. Cinquantaine d'agents correctionnels supplémentaires qui seraient nécessaires pour opérer correctement le centre de détention de Québec. Une cinquantaine, avec les chiffres d'emploi là, normaux, on a eu besoin d'une cinquantaine de personnes de plus. Puis cette arrivée massive-là, là, des membres des deux groupes, ça s'est traduit en augmentation de la violence, oui, mais on sait qu'il y en a qui ont été agressés là, assez sévèrement. Donc, on réussit malgré tout, malgré ces employés supplémentaires dans la prison d'Orsainville, les mesures qui sont prises, le fait de les séparer, bien, on réussit à en échapper parfois. Je reviens dans le dossier de Saint-Urbain, la mort des deux pompiers à temps partiel. Saint-Urbain est mis à l'amende par la CNESST. On a appris ça, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui a donné un constat d'infraction à la municipalité de Saint-Urbain pour le rôle qu'elle a joué dans le décès de deux de ses pompiers volontaires. Ça, c'est pendant les inondations, je vous rappelle, du 1er mai 2023, alors il y a un an maintenant. Et la CNESST avait un an pour entamer des démarches. C'est fait, donc c'est finalement presque à la fin du délai qu'on a réussi à le faire et qu'on a choisi de le faire. Mais la municipalité a été mise à l'amende le 26 avril pour les événements survenus il y a un an. Donc, on considère que Saint-Urbain est contrevenu à la loi ou a agi de façon à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. C'est un juge de la Cour du Québec qui va être appelé à trancher en cas de contestation de l'amende ou de l'infraction. C'est ce qu'a indiqué la CNESST. Combien? Bien, la municipalité s'expose à une amende qui peut aller jusqu'à 77 000 $ pour une première offense, mais ça peut aller jusqu'à 300 000 $ en cas de récidive. La municipalité de Saint-Urbain a 30 jours pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou encore de non-culpabilité. Et on rappelle que l'organisme a conclu à la fin de mars que Régis Lavoie et Christopher Lavoie n'avaient pas la formation, n'avaient pas les compétences, n'avaient pas l'équipement qui était nécessaire pour aller faire ce sauvetage nautique-là et que ça littéralement mené à leur noyade. Là. Alors, c'est un gros dossier au-delà de l'humain, au-delà de l'enquête du coroner. Bien, on est rendu avec cette majeure mise à l'amende par la CNESST face à la municipalité de Saint-Urbain. Quand je vous dis que c'est plein dans l'actualité, puis c'est vraiment difficile, puis que je vais finir avec des nouvelles un petit peu plus positives, je ne peux pas passer sous silence celle de Radio-Canada. Aurore en Beauce, il y a 6 ans de prison qui ont été donnés pour un agresseur sexuel. C'est un homme de 60 ans qui aurait agressé, bien, qui a agressé en fait sexuellement une handicapée intellectuelle qui a littéralement servi d'esclave dans une résidence Beauceron, qui a été condamné à 6 ans de détention. On l'appelle Solange, le cas de Solange. a été comparé à Aurore, l'enfant martyr, dans un corps d'adulte. Et là, il y a eu des audiences au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. C'est là qu'on a appris plein de choses. Mais cette personne-là, Solange, a été la cible des pulsions sexuelles de Benoît. Puis la victime a été l'esclave de la sœur de Benoît, aussi non fictif. Puis la femme la battait à répétition pour qu'elle accomplisse des tâches ménagères. La sœur a déjà été condamnée. Elle a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement l'été dernier pour avoir fait vivre à Solange ce véritable régime de terreur-là pendant plusieurs années. Mais pendant ce temps-là, son frère profitait de la vulnérabilité de la femme dans la soixantaine, qui avait un âge mental de 7 ou 8 ans, là, pour l'agresser à plusieurs reprises. Donc, il lui donnait même de la crème glacée pour acheter son silence. C'est vraiment à donner des frissons, cette histoire-là. Mais c'est important de la mettre en lumière parce que c'est important d'en parler. C'est important de dire que ça existe. C'est important qu'on soit au courant en tant que citoyen. Même des peines qui vont de soi dans ce genre de dossier-là. 6 ans de prison pour cet agresseur sexuel. Vous pouvez faire un tribunal public en ce moment puis essayer de commenter à savoir si c'est assez pour vous. Du côté des États-Unis, il y a le procès de Donald Trump. C'est au tour de l'avocat de Stormy Daniels de témoigner. C'est vraiment intéressant, ce procès-là. C'est la première audience de la semaine au procès criminel de Donald Trump qui a eu lieu mardi, donc hier. Et ça a été marqué par un feu roulant de témoignages, un après l'autre. Notamment celui de l'avocat des deux présumées maîtresses de l'ancien président américain Donald Trump. Et ce qu'on a su là-dedans aussi, c'est que Donald Trump est coupable d'outrage au tribunal pour avoir violé l'ordonnance qui le restreignait de dire publiquement des choses sur le procès. Puis, ben, c'est ça, il n'a pas respecté. Là, je vous en ai parlé hier. Puis, c'est quelque chose de plus qui part au bout du nez de Donald Trump. Mais là, on aura une nouvelle partie dans ce procès intéressant, là, malgré tout. Et c'est le témoignage de Mme Stormy Daniels. Donc, c'est plutôt l'avocat de Stormy Daniels qui va le faire, mais ce sera ça le plan de la journée aux États-Unis en ce qui concerne Donald Trump. Et je termine avec 2 bonnes nouvelles. La station de ski Le Relais change de main. Je ne sais pas parce que c'était problématique les mains entre lesquelles il était, ce mont-là, dans les dernières années, mais c'est une histoire de succès. Donc, c'était une propriété de la famille Beaulieu depuis 1987 et le centre de ski Le Relais à Lac-Beauport va passer entre les mains de 4 investisseurs d'ici, de la région de Québec, dont le PDG du Festival d'été de Québec, Nicolas Racine, et l'avocat Henrik Simard. C'est des gens qui caressent depuis longtemps le goût de faire briller cette montagne-là. Ils sont skieurs, ils sont nés à Lac-Beauport pour certains, dont Henrik Simard. Et c'est ça, ils sont nouveaux actionnaires du centre de ski Le Relais, ils sont bien contents. Ils disent qu'ils ont plein d'idées derrière la tête et qu'ils vont tenter du mieux possible d'honorer ce petit bijou-là. Et parlons de football, doublé du Rouge et Or au premier tour de repêchage de la LCF. Vraiment, il y a des images, tu sais, des amis qui étaient dans ces soirées de rassemblement-là, parce qu'on connaît finalement ces joueurs-là pour certains, qui étaient, comme on voit aux États-Unis, là, dans une pièce habillée d'une manière un peu chic, avec des petits drinks, puis on attend l'appel, on attend que le téléphone sonne. Et il y a Kevin Mittal qui va tenter d'amener son style assez flamboyant, disons-le, dans une ville intéressante, soit les Argonauts de Toronto, qui ont fait du receveur du Rouge et Or le 5e choix de repêchage de la Ligue canadienne de football. C'est 2 rangs avant Nathaniel Dumoulin-Duguay, qui va poursuivre, lui, sa carrière à Hamilton. Ils seront réunis avec leurs coéquipiers du Rouge et Or dans un restaurant près de chez vous, assurément, pour fêter tout ça. Mais ça s'est déjà fait un peu hier. Au dernier nouvelle, M. Mittal dormait encore à 10h45. Donc, il n'a pas eu à patienter longtemps, lui, par contre, pour recevoir l'appel des Argonauts. Mais c'est intéressant, là, nos talents d'ici qui s'illustrent dans une ligue supérieure de football. On peut être bien fiers de nos artisans. Puis, si vous les avez vus jouer au stade de l'Université Laval, peut-être que vous allez les suivre ailleurs. Ça va vous faire des beaux voyages de foot, des beaux voyages de sport. Je vous le souhaite. C'est à faire. Pour ceux qui aiment ça, là, c'est vraiment, vraiment à faire. Voyager pour le sport. Or bleu, pas grand-chose dans vos oreilles. On vient à leur CV.
Or bleu, je ferme les yeux.
Leur CV. Avec Pascal CV.
L'émission tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir été là. Toujours ouverte aux suggestions, aux commentaires 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Et pour ceux qui auront fini l'émission avec moi, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Ça vous tente-tu d'aller voir un show de musique ou découvrir quelqu'un? Je ne sais pas si vous connaissez Keith Kuna. C'est tout un personnage. Moi, je l'avais vu en première partie de Lisa Leblanc, je crois, au Festival d'été de Québec il y a plusieurs années. Tu avais Lisa Leblanc, Bernard Adamus et Kit Kuna qui étaient sur la scène là, dans le Parc de la Francophonie. Et je me rappelle très bien de me dire, c'est qui cet énergumène-là? Il est tout un spectacle là, sur scène, que vous connaissez ou pas ses chansons, vous allez passer un bon moment. C'est un moment explosif, dynamique, vous allez avoir du fun, que vous preniez une petite bière ou non. C'est l'insolence qui nourrit la beauté dans les spectacles de Kit Kuna. C'est tout un personnage. Il est insaisissable. Je ne suis même pas capable de le décrire. Il y a cette chanson-là, entre autres, que je trouvais que c'était vraiment comme un début de chanson de Steffi Choc. Dans le style un peu funky, un peu désordonné, Kit Kuna se donne amplement. Ça, c'est la joyeuse de Kit Kuna. Si vous voulez le découvrir, j'ai une paire de billets à vous donner tout de suite. 4 albums, un EP qui a été vivement applaudi. Alors, ce gars-là est à découvrir. Il sera à l'Impériale Belle le 10 mai.
Elle s'appelle Marchand Bon Melon, elle s'appelle Comtesse de Saint-Gueux. La vie est belle sous ses jupons. Elle chante un air de rhum anglais quand elle se cabre. Chaud des douces comme un grand serpent. Des marais pelés dorés de perles roussées. Elle est magique, le temps de rêve.
Si vous voulez découvrir le phénomène Kit Kuna, paire de billets pour le 10 mai prochain. Maintenant, à vous donner... Maintenant, c'est au 418-971-1021. Pourquoi vous voulez y aller? Le connaissez-vous? Êtes-vous fan depuis des années?
J'aimerais 100 fois pire si tu pouvais. T'éteindras jamais. J'aurais faim, j'aurais soif, j'aurais froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content.
Imaginez sur scène. Je me rappelle d'avoir un sourire tout le long au visage parce que c'est une bébite en soi. Kit Kuna, 418-971-1021. Qui veut y aller, je donne la paire de billets maintenant. Merci beaucoup d'avoir été en ce 1er mai dans leur CV. La programmation continue. Marceau s'en vient. Marceau le midi avec Tom Gauthier, Yannick Marceau, moi-même. Ah, ça prend toujours une saprée débarque à un moment donné dans le show. Je ne sais pas à quelle heure ça sera le cas, mais soyez avec nous pour la vivre, tout le monde ensemble. Merci d'avoir été dans leur CV. Je vous rappelle ce mois important de mai qui est « On ne tombe pas le gazon, OK? Merci. Bon, on ne sera pas les voisins gonflables. On ne le tombe pas pour laisser les abeilles butiner et qu'on ait une magnifique saison de jardinage, entre autres, et de, bon, pour sauver les abeilles. Merci! À tout de suite!
Gravel.